Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Alice Longuepé.
Bonjour Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast 2030 Glorieuse est en lien avec la NEF, une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans déjà les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. C'est un partenariat qui me permettra de continuer à vous faire découvrir des personnes inspirantes tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous échangeons à distance et nous allons d'ailleurs parler de ton métier, qui est lui directement lié à la NEF, puisque tu es banquière itinérante. C'est un métier essentiel pour identifier, conseiller et soutenir les porteurs de projets durables et solidaires de ces fameux mondes de demain. Pour commencer cet échange, Alice, je pose cette question que je pose en fait à tous mes invités maintenant au début de chaque entretien. Qu'est-ce que tu réponds à celles et ceux qui te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu sais, quand tu rencontres une personne pour la première fois, on revient toujours à cette question fatidique. Qu'est-ce que tu leur dis, toi ?
Alors, je donne la détermination, effectivement, de mon métier, qui est banquière itinérante et qui pose souvent beaucoup de questions et qui suscite la curiosité parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre. Donc, j'explique que c'est un terme que l'on a... On a piqué ça à la Banca Etica, la banque éthique italienne. Et ma mission, c'est effectivement d'accompagner des projets qui participent à la transition citoyenne et écologique.
Banquière itinérante, tu dis qu'effectivement, on n'a pas l'habitude d'entendre ce terme-là. Qu'est-ce qui change avec une banquière classique ?
Alors, j'ai cette expérience de banquière classique, donc c'est encore plus facile pour moi d'en parler. C'est qu'aujourd'hui, à la NEF, on collecte de l'épargne de citoyens. Et moi, ma mission, c'est d'utiliser tout cet argent qui est déposé chez nous pour aller accompagner, pour prêter, faire des prêts, hein, tout simplement, à des entreprises, à des associations, des coopératives, à des collectivités qui ont un projet qui va faire du bien soit à la planète, soit à l'homme. Tu parlais de nos trois domaines, effectivement, de prédilection qui sont l'environnement, la culture et le social. Donc, ça peut être vraiment des choses très variées. On peut financer une éolienne, on peut donc être dans les énergies renouvelables. On est beaucoup sur l'agriculture biologique. On est en partenariat avec le réseau Biocoop. Enfin, c'est assez varié, mais ça permet en tout cas de changer le monde, de le rendre plus respectueux de la nature et de l'être humain.
Et ça, finalement, Alice, une banquière classique, entre guillemets, pourrait le faire. Pourquoi itinérante ? Pourquoi coller ce terme-là à l'intitulé de ton poste ?
Parce qu'on estime que la proximité, être à côté des porteurs de projets, donc aller vers eux. J'ai un bureau à Lille, à la maison Stéphane Hessel, où il y a d'autres structures de l'économie sociale et solidaire, mais j'ai surtout un véhicule de fonction, forcément un véhicule propre, qui me permet d'aller à la rencontre sur tout le territoire que je couvre, aller à la rencontre des porteurs de projets, des entrepreneurs engagés. Donc, il y a ce lien d'itinérance, c'est vraiment pour expliquer qu'on ne reste pas enfermé dans un bureau. On est vraiment sur le terrain, on rencontre des personnes, on met en relation, et c'est ce qui fait toute la différence avec un banquier traditionnel.
Ben oui, j'ai l'impression qu'effectivement, ça fait toute la différence, puisque dans la posture même, il y a une mise au service qui est beaucoup plus prononcée, non ?
C'est ça. On essaye d'être les plus proches, et puis on l'est, puisque l'argent que nous, on prête, vient forcément de la poche d'un citoyen. Donc, c'est le circuit court de l'argent, et on s'inscrit dans ça en étant au plus proche des projets qu'on accompagne.
Oui, c'est vrai qu'on a un peu cette image du banquier, de la banquière qui attend dans son bureau avec son fameux tampon. Et donc on vient presque supplier à ce qu'on nous soutienne financièrement dans nos projets. Il y a quelque chose de très pyramidal, très vertical dans cette relation au banquier ou à la banquière. Là, j'ai l'impression qu'au contraire, comme tu le dis, c'est le circuit court de l'argent, avec du coup un argent qui est collecté par la nef et qui a cette obligation, cette mission en tout cas, de le mettre au service de celles et ceux qui développent des projets et qui sont en plus, j'ai l'impression quand même, parfois tellement avant-gardistes que les banques classiques ne les suivent pas.
Alors, c'est exactement ça. Moi, j'ai commencé à travailler en banque traditionnelle il y a presque 20 ans. Je me souviens des premiers dossiers d'énergie renouvelable photovoltaïque où la banque où j'étais, pourtant une très grande enseigne connue, ne voulait pas financer parce que c'était encore assez nouveau. À la nef, ils en finançaient déjà pas mal. Donc, on est avant-gardiste sur les projets qu'on accompagne. Et en plus, comme on est totalement transparent, on publie tous les ans la liste de tous les projets que nous accompagnons. On peut les retrouver sur le site internet de la nef. Ce qui nous oblige effectivement à garder cette ligne de route, cette éthique, à financer que des projets qui sont au service de la planète et de l'être humain.
Il y a un exemple marquant qui a beaucoup fait parler de lui en début d'année. C'est celui de la chef Claire Vallée, qui est à la tête d'Ona, ça veut dire origine non animale. C'est un restaurant qui a décroché en janvier la première étoile Michelin accordée en France à un restaurant vegan. Et ce restaurant, il a été financé en partie par la nef.
Oui, tout à fait. J'ai pu voir ça dans la liste des prêts. C'est un de mes collègues sur une autre région qui a accompagné ce beau projet. Et c'est une fierté d'avoir dans nos emprunteurs un projet qui est mis comme ça en avant et qui réussit. En voulant faire différemment, en voulant faire mieux, et on est très content.
Comment on en vient à faire ce métier ? Alors, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais c'est vrai que j'ai jamais été, moi, fasciné par le monde de la banque, que j'imagine bureaucratique, rigoureux. Toi, tu disais que tu étais arrivé en plus dans une banque classique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et puis surtout, ce qui est intéressant, comment tu es passé d'une banque classique vers la nef, en fait ?
Alors, moi, je suis une passionnée des chiffres. J'ai fait un doc de maths en voulant être professeure de mathématiques. Finalement, la vie fait qu'on dévie vers autre chose. J'avais mon voisin de palier quand j'étais étudiante qui travaillait en banque, qui rentrait le soir avec son petit costard et sa petite valisette en cuir, et je trouvais ça super classe. Et c'est vrai qu'au début des années 2000, le métier de banquier était perçu comme quelque chose d'assez chouette, d'assez important. Enfin, il y avait une relation au métier qui était quand même assez épatante. On avait le pouvoir, on avait l'argent. Donc, je suis rentrée finalement en banque après avoir fait une maîtrise de banque finance assurance pour vraiment travailler dans ces milieux-là. J'ai fait ça pendant 7 ans avant de devenir maman et de me rendre compte que je ne m'épanouissais pas dans mon travail. J'avais plus de sens finalement. J'avais été formée pour accompagner des entreprises et finalement je devenais une commerciale avec des objectifs très serrés à atteindre. Et c'était plus un métier qui me plaisait. Et puis avec la crise de 2008, ce métier a été quand même beaucoup sali finalement. Les gens râlaient auprès de leurs banquiers, ils n'étaient pas contents. Donc j'ai pris un tournant moi dans ma carrière à ce moment-là où je suis devenue, j'ai fait ça pendant 5 ans, je suis devenue consultante pour les entreprises avec tout le savoir et l'expérience que j'avais pu cumuler pendant 7 ans. Je voulais le mettre au service des porteurs de projets pour être en meilleure position de négocier vis-à-vis de son banquier. Et puis cette expérience de 5 ans m'a fait découvrir la nef à l'époque où la nef commençait à se déployer sur toute la France. Il voulait créer un poste de banquier itinérant dans la région des Hauts-de-France. Et donc, j'ai postulé et ça fait maintenant presque 8 ans que je suis banquière itinérante à la nef et j'adore ce métier. C'est vraiment un métier qui me fait grandir à titre personnel parce que tu rencontres tellement de gens avec des pensées, des modes de pensée différents. Je me suis rendu compte qu'il y avait une alternative dans tous les domaines de la vie finalement. Alors, dans la consommation, dans l'énergie, dans l'éducation, dans la santé. Et c'est génial parce que ça me fait grandir moi à titre personnel ainsi que ma famille qui me suit du coup dans ce chemin. Et je dis toujours que je suis amoureuse de mon métier et que je ne le lâcherai jamais parce que c'est vraiment des rencontres, c'est une prise de conscience, c'est tellement positif, c'est une énergie positive que j'ai chaque jour, donc ça me plaît vraiment.
J'entends que ce métier-là et ce poste de banquière itinérante, il te permet de concilier à la fois cet amour des chiffres que je t'avoue, je ne comprends absolument pas. J'étais vraiment nul en maths. Pour moi, les chiffres, retenir une suite de 5 chiffres, c'est déjà un calvaire. Donc là, vraiment, chacun son truc. Bravo, je suis ravi pour toi. Mais quand même, pour dépasser un peu cette aversion qui est vraiment très personnelle, je comprends que tu arrives à concilier ton amour des chiffres avec là cette envie de se mettre au service. Au service de porteurs de projets, il y a quand même quelque chose que j'aimerais éclaircir, c'est comment tu fais pour être sensibilisé et même formé à ces sujets sociaux, écologiques, culturels qui sont mouvants et qui sont parfois complexes, où la ligne de crête entre vraie bonne alternative et greenwashing est très fine. Comment tu t'y retrouves et comment tu sais que tu investis dans les bons projets?
Alors ça s'apprend sur le tas. C'est vrai que moi, je suis arrivée à la nef avec mes connaissances et mes compétences du milieu bancaire. Pour tout ce qui était, comme tu le dis, l'alternatif, même un statut associatif, je ne connaissais pas forcément tout ce qu'il y avait derrière en termes juridiques. Bah là, c'est une fois de plus, c'est les sociétaires de la nef, puisqu'on est une coopérative à la nef, donc on fonctionne avec des sociétaires. Il y en a qui sont plus ou moins impliqués. On appelle ça des sociétaires actifs. Ce sont des sociétaires qui s'investissent un peu plus de façon bénévole dans la coopérative et qui m'ont pris en main dès que je suis arrivée sur le poste, qui étaient déjà un peu des ambassadeurs sur le territoire avant qu'il y ait un salarié qui soit en place. Et donc, j'ai passé les premières semaines de ma vie à la nef à rencontrer à la fois ces sociétaires actifs, des partenaires qui sont déjà dans ces réseaux. J'ai mon voisin qui est l'association Terre de Liens. J'ai un autre voisin qui est NERCOP. Enfin, on rentre dans un univers, dans un monde alternatif. Et c'est ce qui permet d'apprendre effectivement à faire la différence entre les projets qui sont purement du greenwashing et qui surfent sur cette vague et les projets qui veulent changer le monde. C'est ma mission quand je rencontre un projet, un porteur de projet, d'aller détecter ça, d'aller voir si la gouvernance est partagée, quelles sont les valeurs à la fois personnelles mais à la fois du projet. C'est vraiment une expérience à force de rencontrer des projets, à force de baigner dans ces milieux-là et d'être en lien avec les partenaires, on arrive à dissocier. Il y a des fois où c'est pas facile, donc c'est là aussi où l'intelligence collective on démontre que c'est efficace puisque j'interroge mes collègues, j'interroge les sociétaires pour avoir leur avis. Quand je suis pas moi totalement convaincue d'un projet, ben, je vais chercher du secours et des opinions auprès des autres.
Je te parlais tout à l'heure de l'exemple de Ona, le restaurant vegan. Là, je trouve que la prise de risque, elle était finalement assez réduite parce que même si c'est vrai que c'est un type d'alimentation très spécifique, on voyait sans doute déjà les prémices de l'intérêt des Français pour ce type de nourriture et le business model, pour le dire comme ça, du restaurant était assez évident. Est-ce que tu peux me partager des exemples de structuration, de projets économiques, pour pas dire de projets d'entreprise, qui étaient vraiment très novateur ou très différent de ce que tu avais l'habitude de voir et qui, au premier regard, pouvait te faire dire « oulala, ça ne marchera jamais » et qui, en fait, aujourd'hui, dans notre époque très mouvante, c'est non seulement avéré durable, mais en fait même hyper résilient et hyper capable d'affronter les crises successives que nous sommes en train de vivre actuellement.
Alors oui, j'ai un exemple en tête, l'entreprise Jean Bouteille, je ne sais pas si tu connais.
Si, je connais bien, vas-y.
Il y a quelques années, il y a presque 7 ans de ça, j'ai rencontré Gérard Bellé, le fondateur, qui avait eu cette idée de revenir à la consigne, à la bouteille en verre pour tout ce qui est les produits liquides. C'était un petit prêt pour se lancer. Je t'avoue que c'était pas évident en termes de faisabilité de projet, mais le concept en lui-même était tellement sympa, tellement novateur, même si finalement on revenait à quelque chose qui se faisait avant et que Gérard avait envie de le remettre au goût du jour. C'était pas gagné à l'époque. Je pense qu'il aurait eu des difficultés à se faire financer par une banque plus traditionnelle. Mais moi, j'y ai cru. On y a cru à la nef. J'ai eu envie de le suivre. Et on a bien fait parce que finalement, 7 ans après, Jean Bouteille, tu peux le retrouver aujourd'hui dans la plupart de tous tes biocoop ou même de magasins un peu plus classiques dans toute la France. J'ai eu moi-même le plaisir cet été en partant à 1000 km de chez moi dans le sud de la France, les premières courses que je vais faire, de tomber sur Jean Bouteille. Donc, il essaime bien aujourd'hui sur tout le territoire et heureusement pas vraiment impacté par la crise sanitaire parce que les courses, il y en a toujours besoin. Je pense que pendant cette crise, justement, les gens ont pris conscience de qu'il fallait consommer plus local, de façon plus respectueuse de l'environnement. Jean Bouteille, c'est un très bon exemple pour moi aujourd'hui. On l'a accompagné il y a 7 ans en création, aujourd'hui il se développe et on le retrouve un peu partout, donc ça fait vraiment plaisir.
Et au-delà des entreprises, là l'exemple de Jean Bouteille est très parlant, vous soutenez aussi des associations, des coopératives, d'autres structures qui sont non lucratives, j'ai l'impression.
Alors ce qu'on peut voir, ce dont j'ai envie de te parler effectivement, c'est qu'on peut voir aujourd'hui des métiers assez traditionnels qui choisissent un statut économie sociale et solidaire. Je pense à un cabinet d'expertise comptable que j'ai pu financer sur Villeneuve d'Ascq, qui est entrepreneur engagé. Il y a des choix de métiers comme ça qui se font, mais sous statut coopératif, donc là où l'appât du gain n'est pas forcément la priorité malgré le métier. Donc on voit apparaître ça. Dans le monde associatif, on accompagne aussi beaucoup de projets. C'est un choix en fait. Hein. Là, ce sont un regroupement de personnes qui vont porter un projet. Il faut le faire. Il y a aussi des associations de préfiguration avant de changer de statut et de partir vers un statut plus coopératif. Et puis, tu as aussi, avec la loi Hamon, l'agrément ESUS qui est sorti, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui permet de montrer qu'on est une entreprise assez traditionnelle par ses statuts, mais qui s'engage dans plusieurs compromis, notamment la gouvernance partagée, les niveaux de salaire, l'empreinte carbone, etc., etc.
Est-ce que il y a quelques années, tu te sentais pas un peu seul quand même à défendre ces dynamiques, et si c'est le cas aujourd'hui, est-ce que tu as vu ton territoire évoluer vers ces envies de plus de durable, de plus de solidarité dans ton activité professionnelle et aussi, j'imagine, dans toutes les activités, les conférences, les rencontres auxquelles tu participes?
Alors, c'est certain qu'en 8 ans de NEF, j'ai vu forcément le territoire évoluer. J'ai la chance d'être dans la région des Hauts-de-France, sur un territoire très dynamique pour ces questions d'économie sociale et solidaire, avec beaucoup d'autres partenaires de la finance solidaire. Il y avait la Caisse solidaire, il y a l'Association régionale des Cigales, il y a Autonomie Solidarité. Donc, je n'ai jamais été seule. Ça, c'est une chance sur mon territoire, c'est que je me suis jamais sentie isolée. Mais 8 ans après, on peut faire le constat qu'effectivement, ça s'est quand même beaucoup plus vulgarisé, beaucoup plus popularisé finalement, la finance solidaire, et que les gens connaissent mieux, il y a plus de relais, plus de partenariats. Donc, c'est en croissance, ça s'accélère même, je dirais. Pour rien que parler de la NEF en 2020, on a fait une année record en termes de crédit et en épargne également. Donc, on voit bien que les gens ont pris cette conscience qu'ils pouvaient donner du sens à leur épargne, à leur façon d'épargner, mais aussi à leur façon d'emprunter. Donc, et effectivement, cette crise sanitaire a accéléré les choses dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine de la finance solidaire. Donc, c'est chouette, c'est un constat plutôt positif.
Donc, j'entends dans ce que tu dis, la participation de la NEF à normaliser les sujets écologiques, les sujets solidaires, et à accélérer cette envie de faire société différemment. J'entends aussi un peu, mais là c'est en creux, que d'une certaine manière vous changez aussi les habitudes entre les entrepreneurs. Là où d'habitude la compétition fait rage, j'ai quand même l'impression que toi tu facilites grandement l'interaction entre les emprunteurs de la NEF. Est-ce que je me trompe?
C'est aussi notre mission, c'est notre but de faire ça, d'être dans le partage et de faire rencontrer les porteurs de projets pour voir qu'ils ne sont pas seuls. Je le fais assez souvent, moi, en disant oui, vous avez un projet certes un peu précurseur et en avance, vous avez peur, mais échangez avec d'autres qui l'ont fait, qui portaient les mêmes valeurs que vous. Et si je peux revenir sur ce que tu disais au début de ta question, alors je pense que les gens n'ont pas attendu après la NEF pour se lancer dans des projets alternatifs et porteurs de sens. Hein. La NEF, nous, je nous situe plutôt comme l'outil qui va permettre d'arriver à faire ça. C'est peut-être plus compliqué pour quelqu'un qui ne connaît pas la NEF aujourd'hui et qui veut se lancer dans un projet pas forcément utopiste, mais en tout cas voulant participer fortement à cette transition. La nef, nous, on aide. On est cet outil financier qui permet d'arriver à ça. Mais les gens qui ont cette volonté, cette envie, ils attendent pas après nous. Hein. Ils peuvent le faire aussi. Il y a aujourd'hui la finance participative hein, qui s'est bien développée. D'ailleurs, on a un outil, nous, à la nef, qui s'appelle Zest, qui permet de récolter des dons. Mais on aide aujourd'hui. Moi, je sais que je suis identifiée sur mon territoire. On fait des réunions avec la région, avec les départements. Donc, on voit qu'il y a cet attrait fort quand même. Il se pose la question, c'est curieux, pourquoi une banque éthique? Quelle est sa place? Quel est son rôle? Donc, on voit que ça descend, qu'on arrive à être aujourd'hui dans des cercles un petit peu plus connus, un peu plus grand public. Donc, ça, c'est chouette. Mais c'est pas nous qui créons les projets. On les accompagne, on les aide, on les soutient, on les oriente, mais on n'est pas à l'origine de ça.
Oui, tu parles de soutien. J'ai quand même l'impression qu'en plus d'un soutien économique, c'est un soutien de lien aussi. Hein. Vous rapprochez beaucoup les emprunteurs entre eux, non ?
Bah, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans notre société. Hein. On peut s'en rendre compte. C'est pas compliqué, le pouvoir d'achat de chacun. Et l'argent reste quand même le roi dans notre société capitaliste. Donc, nous, on propose autre chose à la nef. On propose une finance solidaire, une finance plus respectueuse, une finance où les richesses sont partagées. Donc, certes, on est tout petit aujourd'hui. On est très peu connu du grand public. La première question que je pose à chaque fois en premier entretien, en premier rendez-vous, c'est comment vous avez connu la nef ? J'ai presque l'impression qu'il faut faire cet effort de venir vers nous parce que on n'est pas dans les médias nationaux, on reste quand même assez confidentiel, très connu dans les réseaux alternatifs et militants, mais du grand public, on reste encore un peu caché. Donc si demain il y avait plusieurs nefs un peu partout, ou plein de petites nefs ou beaucoup d'autres banques éthiques de la finance solidaire qui apparaissaient sur le territoire, ça serait une chance pour le grand public de prendre conscience qu'avec leur argent, ils ont un réel pouvoir. De la façon dont ils vont dépenser leur argent, c'est ce qui construira le monde de demain.
Merci Alice pour cette première partie qui était vraiment passionnante. On va pas tarder à partir ensemble en 2030 glorieuse. Et avant ça, comme à chaque fois, l'invité vient avec un cadeau qu'il nous fait en nous ouvrant une fenêtre d'inspiration à travers la littérature. Parce qu'il y a dans nos romans tout un tas de pistes qui montrent à quoi pourrait ressembler le monde de demain. Et toi, tu nous partages une utopie qui a particulièrement résonné en toi. Laquelle est-ce ?
Alors j'ai choisi un extrait du livre de Muhammad Yunus, qui est prix Nobel de la paix. Son œuvre s'intitule « Vers une économie à 3-0, zéro pauvreté, zéro chômage, zéro empreinte carbone ». Et dans le préface de son bouquin, il a indiqué que c'est un livre qui est adressé aux jeunes générations qui bâtiront une nouvelle civilisation. Et je trouvais que ça sonnait plutôt bien avec les 2030 glorieuses. Nous avons besoin d'un changement plus radical dans notre manière de penser l'économie. Il est temps d'admettre que la vision néoclassique du capitalisme n'offre aucune solution aux problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés. Elle a certes permis de produire des progrès technologiques stupéfiants et d'immenses accumulations de richesses, mais cela au prix d'inégalités massives et des terribles problèmes humains qu'elle favorise. Nous devons renoncer à croire aveuglément dans le pouvoir du marché, axé sur le profit personnel, à résoudre tous les problèmes et reconnaître que les problèmes d'inégalité ne seront pas résolus par le fonctionnement naturel de l'économie telle qu'elle est actuellement structurée. Au contraire, les difficultés ne feront que s'aggraver à grande vitesse. Ce n'est pas seulement un problème qui affecte les perdants du grand jeu de la concurrence capitaliste, c'est-à-dire la majorité écrasante de la population mondiale, son impact se ressent également sur l'environnement social et politique, national et mondial, sur le progrès économique et sur la qualité de vie de chacun d'entre nous, y compris des membres de la minorité nantie. La hausse des inégalités entraîne des troubles sociaux, une polarisation politique et des tensions croissantes entre les groupes. Elle alimente des phénomènes aussi variés que le printemps arabe, le mouvement Occupy Too et le Tea Party Free, le Brexit au Royaume-Uni, l'élection présidentielle de Donald Trump, ainsi que la montée des nationalismes de droite, du racisme et des groupes sectaires, en Europe comme aux États-Unis. Les personnes se sentant laissées pour compte et sans perspective d'avenir deviennent de plus en plus désenchantées et en colère. Notre monde se divise radicalement entre les nantis et les démunis, deux groupes qui ont peu en commun, hormis un sentiment réciproque de méfiance, de peur et d'hostilité. Cette méfiance ne fera que s'accroître à mesure que les technologies de l'information et de la communication se répandent parmi le plus petit segment de la population, car elles rendront les démunis davantage conscients de l'inégalité dont ils sont victimes.
Merci Alice pour cette lecture qui secoue. Hein. Pourquoi tu as choisi ce passage ?
Ben, parce que moi, je fais ce constat qu'on est dans un monde gouverné par l'argent, par la banque, par les banquiers. Tu vois Mario Draghi, président de l'Italie, Emmanuel Macron en France, c'est aussi un ancien banquier. Plus récemment, l'élection de Joe Biden, alors qu'il n'était pas banquier lui, mais il était quand même sénateur du Delaware. C'est un État qui est considéré comme le paradis fiscal des États-Unis. Donc, tu vois qu'à la tête de nos États, les gens qui nous gouvernent, ce sont des gens qui ont été baignés dans le monde de l'argent roi. Donc, Mohamed Younous, dans son constat, il le dit bien. Enfin, ce que j'ai choisi, il y a des termes assez durs et ça va loin dans la pensée. Mais quand on aura compris que finalement, l'argent n'est pas le moteur, mais c'est bien la façon dont l'utiliser, la répartition des richesses, voilà, moi c'est un extrait qui me touchait, qui me touche, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses et qui fait écho avec le métier que je vis et mon quotidien. Donc voilà, je voulais relater cet épisode.
Ça y est, nous allons prendre de la hauteur là, nous allons partir. Ta lecture était un côté de la pièce, alors là on retournerait la pièce et on verrait son exact opposé, un monde qui est lui dirigé par des personnes qui ont décidé de remettre le vivant au cœur de tout. Nous sommes, ça y est, dans presque 10 ans, en 2030 glorieuse, nous avons réussi. Réussi quoi ? Je ne sais pas, c'est à nous de le discuter, de le décider ensemble, mais là où en 2021, je ne sais pas si tu te rappelles, les Français n'osaient même plus imaginer l'avenir tant ils leur semblait sombre. Nous nous retrouvons dans une société du vivant, hein, une société de la solidarité, une société où la quête de croissance infinie a laissé la place à la régénération des écosystèmes, à la création de liens, à la libre expression de la créativité, de la générosité. Et ça fait un bien fou. On va essayer de raconter à celles et ceux qui nous écoutent actuellement à quoi ressemblent ces 2030 glorieuses. Et je sais que c'est pas évident, mais je te lance quand même ce défi de ne pas revenir trop en 2021 et de ne pas parler de 2021 au présent, mais d'en parler comme une époque révolue qui nous semble presque tellement lointaine qu'on a du mal à la réimaginer. Nous sommes donc en 2030 glorieuse, Alice. Toi, tu dois raconter, décrire ce que tu vois aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu leur dis ?
Alors moi, je vois qu'on est désormais dans une société où les gens ont compris qu'ils avaient un pouvoir très fort avec leur argent. D'abord dans leur façon de consommer, plus locale, plus respectueuse envers la nature. Ensuite, dans leur façon de se déplacer, la mobilité douce est devenue une règle. Et enfin, dans l'orientation de leur épargne. L'argent n'est plus au service du gagner toujours plus, mais c'est l'économie qui devient le serviteur de l'écologie. On se dit qu'il y a d'ailleurs maintenant un président mondial du vivant qui doit valider toutes les décisions politiques, stratégiques et économiques. La transition avance, elle s'accélère même. On ne pense plus que pour soi, mais avec un regard plus solidaire, plus juste. On assiste à une répartition des richesses beaucoup plus équilibrée. C'est un mouvement qui est aujourd'hui devenu la normalité. On fait attention. Quand on consomme, on se pose les bonnes questions. On nous entend davantage. Quand on s'exprime, quand on porte des valeurs, on n'est plus pris pour un, pour quelqu'un de précurseur ou un bobo ou un militant, c'est devenu vraiment la norme.
Tu parlais de l'argent et donc qui dit argent dit banque. Quel a été le rôle dans les 10 dernières années de ces banques justement pour accélérer cette tendance de la protection du vivant? Elles ont été régulateurs, elles ont été une boussole, elles ont été facilitateurs.
Alors je dirais que les banques ont été obligées déjà d'être beaucoup plus transparentes dans leur fonctionnement et c'est ça qui a créé le changement puisque au lieu de financer comme en 2000, dans les années 2015-2020, on finançait des activités qui étaient très pollueuses et qui étaient pas du tout dans cette tendance de transition. Cette obligation de transparence a remis les choses à leur place et effectivement, toutes les banques aujourd'hui ont cet objectif de soutenir et de faciliter tous ces projets, tous ces commerces qu'on voit autour de nous qui gravitent plus respectueux, dans le zéro déchet, dans des lieux de vie finalement. Le petit commerçant est redevenu un lieu de vie où il y a du lien social, où il y a de la rencontre, où il y a du partage. Et effectivement, si toutes les banques n'avaient pas changé leur fusil d'épaule, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Tu parles de lieu de vie. Est-ce que les banques, finalement, elles ne sont pas devenues elles-mêmes un lieu de vie puisque avec l'organisation de plus en plus de conférences, de salons, de lieux de rencontres et de partage des bonnes pratiques, elles se sont un peu remises au service de leurs emprunteurs, non pas en espérant simplement un retour sur investissement, mais en comprenant bien que l'apport d'argent n'était plus suffisant pour permettre à ce monde de demain de se développer de manière vraiment durable.
C'est tout à fait ça, en fait. Les banques ont maintenant compris qu'il y avait création de richesses, mais création de richesses pas que financières. Et finalement, la création de richesses financières, c'est plus du tout ce qui nous intéresse en priorité, mais création de richesses sociales, environnementales, enfin toutes ces richesses qu'on peut voir apparaître autrement. Quand tu crées un projet, quand tu as un petit commerce dans le centre-ville d'une grande ville, il y a forcément de la richesse financière qui se crée parce que sans argent, on ne peut pas payer ses charges, on ne peut pas payer ses salariés à leur juste valeur. Donc, ça reste un élément important. Mais c'est bien plus important aussi quand je crée de l'emploi, donc une richesse sociale, quand je m'affiche, je prends mon énergie chez Enercop, par exemple. Là, c'est une richesse environnementale. Enfin, on a pris en compte aujourd'hui, chose qu'on ne faisait pas il y a 10 ans, que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on est consommateur, consommateur, il ne faut plus avoir que cette richesse financière en tête, mais qu'il y a bien sûr une multitude de richesses qui sont créées, richesses sur les territoires. Et c'est ce qui change complètement avec notre façon de fonctionner d'il y a 10-15 ans.
Comment ça apparaît, ça, sur le rapport d'activité des banques, puisque il y a encore 10 ans en arrière, on valorisait la seule croissance économique. Et effectivement, il y avait de plus en plus de récits sur l'implication, notamment écologique, mais c'était beaucoup des mots. Comment aujourd'hui, on arrive à mesurer et à mettre en avant et à valoriser ces autres croissances, justement, dont tu parlais, c'est-à-dire environnementales, environnementale, sociale, etc., etc.
Ça n'a pas été facile à faire, forcément, tu t'en doutes, mais aujourd'hui, il y a des outils qui ont été créés pour mesurer ça, tous ces impacts autres. On prend notamment en compte la création d'emplois sur un territoire, on prend en compte le taux de chômage, le taux de pauvreté, on peut mesurer les émissions de carbone pour les grandes entreprises et notamment pour les banques. Donc, il y a ces outils aujourd'hui qui sont à disposition des grandes entreprises et des banques. Et c'est ce qui permet de mettre en avant toutes ces richesses autres qui sont créées.
En plus de cet accompagnement, de cette mise en relation que font les banques aujourd'hui auprès de leurs emprunteurs, il y a aussi eu tout un travail pédagogique pour redonner sa juste place à l'argent. Tu le disais il y a quelque temps que finalement, avant, l'argent, c'était vraiment une finalité et en même temps, l'énergie de l'épuisement des ressources dans le monde d'hier. Aujourd'hui, l'argent, il a été remis à sa juste place, c'est-à-dire non pas comme une fin, mais comme un moyen. Et là, forcément, les banques, elles ont eu leur rôle à jouer. Comment elles l'ont fait? Et est-ce que tu peux me raconter en particulier comment elles ont réussi à inventer une sorte de nouveau programme éducatif, notamment à disposition des écoles, pour que dès le plus jeune âge, on se rende compte des vertus de l'argent, mais aussi de ses risques?
Alors, je dirais en toute humilité qu'elles ont pris exemple sur ce qu'on faisait, nous, à la Nef, depuis déjà bien longtemps, hein, depuis le début des années 80. Donc, Dans les écoles, ça passe par le ludique, peut-être réapprendre aux enfants que l'échange, finalement, la monnaie, c'est pour ça qu'on parle aussi des monnaies complémentaires qui se sont super développées aujourd'hui en 2030, mais le fait de pouvoir échanger de grains de riz contre une cacahuète, par exemple, ça paraît un peu basique, mais de redonner aux enfants le sens que l'argent n'est qu'un moyen de troquer. On échange quelque chose contre autre chose, et ça peut être aussi je te donne deux cacahuètes pour passer 5 minutes de temps avec toi, et que pendant 5 minutes, on va échanger, on va se parler. Donc, il faut effectivement que ça passe par les écoles et par l'éducation et par les enfants, parce que c'est eux qui changeront encore mieux le monde demain. Mais leur faire comprendre que l'argent, oui, c'est ça, et tu l'as dit, c'est qu'un moyen, c'est plus une finalité aujourd'hui. On doit utiliser l'argent pour une fin bien plus, pour un objectif bien plus important et impérieux que ça.
Il y a 10 ans en arrière, tu surprenais le monde en disant que tu étais bancaire itinérante. Est-ce qu'aujourd'hui, le métier de bancaire itinérante, il s'est propagé partout en France, comme on l'espérait?
Ah oui, mais tout à fait. Il n'y a plus que des banquiers itinérants partout en France, c'est-à-dire de l'argent au service de cette transition qu'on a vu s'accélérer là justement ces dernières années. Donc autant il y a 10 ans, j'étais exotique, autant aujourd'hui, je suis normale.
Et ces banquiers itinérants, ils se sont du coup forcément réancrés sur leur territoire. Par territoire, j'entends les villes et leurs périphéries, un peu le domaine dans lequel toi tu évoluais il y a encore une dizaine d'années. C'est des espaces qui sont, je trouve, à taille humaine, des endroits où on comprend les changements et on peut peser sur les changements qu'on a envie de voir. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces zones géographiques, elles ont vraiment permis d'être les berceaux parfaits pour lutter notamment contre les grands dérèglements climatiques et favoriser ce retour au local, cette relocalisation des savoir-faire? C'est une question un peu vaste que je te pose, mais toi qui voyais les prémices de tout ça il y a 10 ans, est-ce que tu peux essayer de nous décrire un peu maintenant à quoi ça ressemble, à comment la ville, dit autrement, comment la ville, c'est une question la plus longue du monde, je m'en excuse, mais comment la ville, elle est redevenue vraiment ce cœur battant de la société solidaire et durable?
Je pense que c'est l'impact des collectifs de citoyens. Quand tu es tout seul dans ton coin en disant « j'aimerais bien faire mieux », tu t'essouffles au bout d'un moment. Et ce qui s'est passé il y a 10 ans, c'est qu'il y a eu de plus en plus de création de collectifs. Donc, on part des territoires, on est en local, un groupe de personnes qui se rencontrent, qui partagent des mêmes valeurs, qui tendent vers les mêmes objectifs, qui sont là, cette transition citoyenne et écologique. Et la multiplication de tous ces collectifs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. Un maire ne peut plus prendre une décision sans concerter le collectif de son village. C'est presque des conseils municipaux, les conseils municipaux, je dirais, qui sont aujourd'hui tenus par ces citoyens un petit peu plus engagés. C'était ce qu'on voyait il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante et tous ces collectifs d'acteurs, c'est eux qui permettent de donner les objectifs de demain, de quelle société on veut. Donc, je prends l'exemple, moi, de mon village où il y a une AMAP qui s'est créée. On n'aurait pas vu ça quelques années en arrière. Donc, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Il y en a une aujourd'hui dans tous les villages et dans toutes les grandes villes. On en retrouve énormément. Donc, on est revenu vraiment sur du circuit court grâce aux citoyens. Je pense que c'est vraiment là le point de départ, ce qui a été le point de départ, oui. Ce sont tous ces citoyens qui ont voulu apporter une solution différente en proposant des idées et qui, de façon collective, ont commencé à se faire entendre et à porter leurs fruits. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus que ça, finalement, c'est collectif, c'est la nouvelle politique, finalement.
J'ai l'impression qu'on a réappris, finalement, à donner notre avis et à participer à quelque chose qui nous dépasse. Et que pour ça, effectivement, le conseil municipal est un bel espace. Et qu'au niveau économique, la vie coopérative et le modèle coopératif, comme il existait, porté notamment par la NEF, mais quand même assez restreint, assez limité à l'époque, il s'est largement démocratisé. Et qu'aujourd'hui, on n'est plus seulement client de quelque chose, mais aussi coopérant, et ça change beaucoup de choses.
Oui, mais tu as raison, c'est ça. Quand je vais faire mes courses chez mon petit magasin zéro déchet à côté de chez moi et qu'en plus je suis sociétaire parce qu'il a choisi le statut coopératif où il a invité les utilisateurs, les salariés, les fournisseurs à participer à cette aventure, ça te donne une notion complètement différente. Tu vas là chez ce petit commerçant parce que tu trouves les produits tels que tu as envie de les trouver, enfin bon pour l'environnement, respectueux, au juste prix. Tu sais que derrière le salarié sera bien payé parce que toi tu payes aussi le juste prix. C'est grâce à ça, à ces statuts-là, à ces nouvelles façons de penser et de travailler ensemble main dans la main. On n'est plus dans un prisme de concurrence. On a compris qu'il fallait travailler ensemble et main dans la main. Donc, c'est ce qui a vraiment été impulsé aujourd'hui en 2030.
Toi, Alice, qu'est-ce que tu fais en 2030 glorieuse? Est-ce que tu es encore banquière itinérante?
Plus que jamais, parce qu'il faudra former aussi les nouveaux. Forcément, on est formaté dans un métier pendant des années, et le jour où on veut faire les choses différemment, il faut se déformater. Et j'espère, enfin moi, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est j'accompagne, je forme tous ces nouveaux banquiers itinérants pour poursuivre le chemin.
Justement, on revient en 2021 et effectivement, la route, elle est encore longue et à la fois très, très courte avant ces 2030 glorieuses qu'on a essayé de dépeindre ensemble pendant un gros quart d'heure. Un monde de coopération, un monde où on se réancre sur notre territoire et on redonne du sens à notre argent, non plus comme une finalité, mais comme un moyen. Donc vraiment, vraiment, merci pour ces perspectives que tu as ouvertes là devant nous, c'est passionnant et à la fois voilà, toutes les personnes qui nous écoutent et nous aussi d'ailleurs hein, on va revenir à notre quotidien, on va revenir à notre acas parfois et à tout ce qui peut être source d'inaction. Du coup, ma dernière question Alice, c'est quel est le premier pas là, toi, que tu proposerais à celles et ceux qui nous écoutent pour marcher vers ces utopies réalistes qu'on a dessinées ensemble?
De faire ce premier pas. Le chemin, on le vit tous d'une façon différente hein, dans cette transition. Donc, avoir cette première idée de se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce que je peux changer dans mes habitudes pour participer à cet effort? Et si chacun faisait ce premier pas, dans tout domaine qu'il est, hein, la mobilité, l'énergie, la consommation, la banque, l'épargne, mais au moins déjà de se dire, allez, je me pose là 2 secondes, je réfléchis dans mon quotidien, qu'est-ce qui serait pas trop dérangeant, parce qu'il faut pas non plus, on le sait, si c'est quelque chose qui est une contrainte, on le fera pas sur le long terme, mais de se donner un objectif, demain je change d'opérateur d'énergie, demain je change de banque, demain je vais faire mes courses à vélo, enfin des choses toutes simples. Et après, on s'y tient et après, on est dans un cercle vertueux qui fait qu'on rencontre des personnes qui ont eu d'autres idées. Ça fonctionne et il faut tenir le cap. On le fait tous à notre façon. On a tous des familles plus ou moins différentes. Et le tout, c'est de se lancer. Une fois qu'on a le pied dedans, on se rend compte que ça fait tellement de bien de participer à ça qu'on a envie de continuer.
Toi, c'est quoi le premier pas que tu as fait, cette mise en mouvement que j'entends que tu as décidé d'arrêter de repousser?
Et bien, moi, c'est quand j'ai commencé à venir travailler à la nef et que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire différemment. Après, ça se fait naturellement. Tu vois, je parlais des AMAP. Je pense qu'il y a 7-8 ans de ça en arrière, j'aurais jamais été bénévole et consommatrice dans une AMAP. Mais savoir que tous les soirs, je fais manger des légumes qui ont poussé là, à moins d'un kilomètre de chez moi et de façon complètement biologique, c'est une histoire que tu racontes. Et moi, c'est certainement mon premier pas à moi.
Merci Alice.
Merci Julien.
Ça y est, cette discussion avec Alice se termine. Vous l'avez peut-être pas trop entendu, mais je vous avoue qu'on a eu beaucoup, 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 beaucoup de problèmes techniques là. Donc j'espère que c'était pas flagrant et que ça a pas trop détricoté la conversation qu'on a eue avec Alice. Mais je suis content qu'on ait tenu bon et de vous proposer ce contenu parce que c'est vraiment, vraiment passionnant de voir l'évolution d'Alice dans la compréhension de son métier et dans le sens qu'elle voulait lui donner, de voir son évolution professionnelle. Et de aussi voir à quel point il est urgent de redonner sa vraie place à l'argent. C'est un sujet que j'ai longuement développé dans le livre qui est sorti chez Actes Sud là en septembre 2020, Redonner du pouvoir à notre argent, et qui en fait m'habite depuis de longues années. Donc le redire avec toutes les nuances qu'Alice a pu apporter, je trouve vraiment ça passionnant. C'est à mon avis le premier levier d'action qui est à notre portée, à la fois pour ralentir la pollution du monde actuel et accélérer la construction des modèles alternatifs alternatives, solidaires, durables de demain. Donc voilà, cette conversation, elle était vraiment riche à plein d'égards et je suis ravi d'avoir tenu bon pour pouvoir vous la proposer. J'espère que ça va vous donner envie de passer à l'action encore plus vite, encore plus loin, comme l'a proposé Alice en fin d'interview. Et je vous dis forcément à très bientôt pour un nouvel épisode de 2030 Glorieuse. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !